Bonjour ou bonsoir à tous pour cette nouvelle diffusion sur édification.bible. Avant de commencer, nous aimerions faire quelques petites annonces habituelles que vous, peut-être, vous avez déjà l'habitude d'entendre, mais qu'il s'agit de réunions spéciales et qu'en aucune façon nous désirons que ces réunions remplacent les activités locales que peut-être vous faites en assemblée ensemble. Donc, la priorité serait pour ces choses en premier et puis il y a des rediffusions qui sont faites quelquefois sur Édification Paix Bible pour des messages que vous pourriez manquer. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait apprécier, un enfant de Dieu qui pourrait apprécier ces édifications, partagez le lien édification.bible et encouragez-le à regarder aussi ces messages pour que ce soit pour notre bien et notre encouragement à tous. Alors, on vous encourage à avoir votre Bible en main pour la lecture de la parole de Dieu et aussi de mettre toute distraction de côté, si possible, pour se concentrer sur ce que le Seigneur voudrait bien nous dire par sa parole. Aussi, je ne l'ai pas mentionné lors de mon dernier message, mais c'est toujours étrange pour moi de voir quelqu'un prier lorsque j'écoute une rediffusion. Alors, je préfère simplement vous encourager et nous encourager tous à cet instant de se remettre au Seigneur pour qu'il parle à nos cœurs et nous donne des moments profitables dans sa parole. Le sujet qui est devant nous ce soir, c'est la puissance de l'esprit pour l'édification du corps. C'est dans cette série de quelques messages qui a pour titre l'édification du corps de Christ, Dieu et nous. Eh bien, ce soir, nous voulons regarder d'une façon particulière à l'œuvre que l'Esprit Saint fait depuis la formation de l'Assemblée de l'Église sur la terre jusqu'à aujourd'hui, dans le but de nous encourager tous ensemble à cette œuvre qui est faite par l'Esprit de Dieu. On va commencer en lisant la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, et quelques versets aussi dans le chapitre 2. Et nous allons regarder ensemble le témoignage puissant de l'Esprit. Donc, dans Actes, chapitre 1, on va lire dans les versets 1 à 4. Actes, chapitre 1, versets 1 à 4. Versets 4 à 8. Versets 4 à 8, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 4. « Et étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, le Seigneur Jésus parlant aux disciples, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez oui de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours. » Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce à ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » On voit dans ce passage du livre des Actes l'annonce de l'Esprit qui devait venir. Bien sûr, le Seigneur l'avait annoncé avant dans l'Évangile de Jean, entre autres, au chapitre 14, verset 15 et suivant, et au chapitre 16 aussi, versets 26, 27 et suivant. Mais ici, juste avant de partir, d'être élevé dans les cieux, d'être assis à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus rappelle cela à ses disciples et il leur parle de l'Esprit qui doit venir. Il y a quelques caractéristiques intéressantes qui nous sont mentionnées. Premièrement, c'est une promesse du Père. C'est ce qu'on trouve au verset 4. C'est le Père qui a promis cela. Et on trouve aussi dans Jean 15, 26 qu'il provenait du Père, l'Esprit, que le Seigneur, lui, allait envoyer. C'est la deuxième chose qu'on voit. Le Seigneur envoie l'Esprit Saint pour que l'œuvre se continue sur la terre. Mais il y a quelque chose de très intéressant à remarquer, c'est le caractère spécifique de l'Esprit qui nous est présenté dans le verset 8. On lit qu'il va envoyer de la puissance, pour vous donner de la puissance. C'est intéressant, deux choses. Premièrement, l'Esprit Saint, il vient et c'est pour donner de la puissance. Et puis, ça nous montre deux choses. Premièrement, que l'Esprit, il agit avec puissance, on va voir dans quel but. Et que deuxièmement, sans l'Esprit-Saint, laissés à nous-mêmes comme êtres humains, même comme les disciples ici qui croyaient en le Seigneur Jésus, sans l'Esprit, sans cet esprit de puissance, on est incapable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur Jésus. Il nous faut la puissance de l'Esprit-Saint pour faire les œuvres que le Seigneur désire que nous fassions. Maintenant, pour quelle raison est-ce que le Seigneur a envoyé cet Esprit, cette puissance pour rendre témoignage à son nom? C'était pour cela que le Seigneur, il donnait cet Esprit. Rendre témoignage au nom du Seigneur Jésus. C'était la raison même pour laquelle l'Esprit-Saint était envoyé, cette puissance. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde dans le chapitre 2 les premiers actes de l'Esprit de Dieu dans sa puissance ici-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, tournons dans nos Bibles, dans Actes, chapitre 2, et on va lire quelques versets. Cette fois-ci, vraiment les versets 1 à 4, nous allons les regarder. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Ensuite, on peut lire au verset 14. Mais Pierre s'étant levé avec les onze, éleva sa voix et leur parla. « Hommes juifs, et vous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Au verset 36. « Que toute la maison d'Israël sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » C'est ce qu'il soulignait aussi dans le verset 32. « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous témoins. » En entendant ces choses-là, remarquez le résultat au verset 37. « Et ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur saisi de compunction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères? » Verset 41. « Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. » Et au verset 47, au milieu, « Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. » Alors, la première chose qu'on voit l'Esprit de Dieu faire lorsqu'il vient sur terre, cette puissance que le Seigneur allait envoyer pour rendre témoignage, la première chose que l'Esprit-Saint fait, c'est de former le corps de Christ. C'est ce qu'on trouve au verset 3. Et ensuite, verset 4, on voit que l'Esprit-Saint, il vient pour remplir les enfants de Dieu de sa personne. Maintenant, juste mentionner ceci rapidement, ce n'est pas notre sujet, mais la formation du corps de Christ a été faite une fois pour toutes. Et ce n'est pas donné à nous de former ce corps. L'Esprit fait déjà ce travail-là. Nous, nous sommes appelés, dans Éphésiens chapitre 4, je crois au verset 3, nous sommes appelés à garder l'unité de l'Esprit. Mais l'Esprit est venu former le corps de Christ. Premier acte puissant sur terre pour rendre témoignage au Seigneur Jésus. Un corps est formé et il est appelé, dans les Écritures, le corps du Seigneur Jésus lui-même, le corps de Christ. La deuxième chose, remplir les enfants de Dieu. Eh bien, ces premiers croyants étaient dans la prière et dans l'attente du Seigneur, et quand l'Esprit il est venu, l'Esprit avait liberté de les utiliser sans aucune entrave pour faire son œuvre. C'est ça, être rempli de l'Esprit. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de spécial qu'on demande une fois qu'on est sauvé. Tous ceux qui sont véritablement sauvés sont scellés de l'Esprit-Saint et sont habités par l'Esprit-Saint. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit? L'apôtre Paul dira entre autres dans 1 Corinthiens chapitre 6. Eh bien, pour être rempli de l'Esprit, c'est qu'il faut être premièrement vidé de soi-même et puis laisser l'Esprit prendre la place, nous conduire et nous diriger dans notre vie, à faire les choses qu'on trouve dans les Écritures. Ça demande le renouvellement de notre entendement dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2 et suivants. Ensuite, l'Esprit-Saint, il vient les remplir, il vient aussi les équiper. Le seul équipement qu'on voit, on en verra tantôt, si on a le temps, c'est ici le parler en langue. Donc, l'Esprit a donné à ses croyants, à quelques-uns d'entre eux, du moins, je ne sais pas si c'était à tous, il leur a donné de parler dans les langues différentes pour que les Juifs de la diaspora qui étaient là à Jérusalem, ceux qui, leur langue maternelle n'était pas celle qui était parlée en Juda à cette époque-là en Israël, eh bien, ils pouvaient entendre l'Évangile concernant le Seigneur Jésus, les choses du Seigneur Jésus dans leur propre langue maternelle, des vraies langues parlées ici-bas sur cette terre. Donc, on voit que l'Esprit-Saint, dans sa puissance, il agit pour remplir et puis pour équiper les croyants. Dans quel but? Dans le but de rendre témoignage au Seigneur Jésus. Et on voit Pierre immédiatement se lever et faire ce premier message d'Évangile à ceux qui étaient à Jérusalem à ce moment-là. Quel beau message! L'Esprit-Saint utilisait sa puissance pour soutenir Pierre, l'aider et le conduire à rendre témoignage du Seigneur Jésus. Ensuite, on voit que l'Esprit, il a édifié et il a bâti. On lit dans Actes chapitre 1 qu'ils étaient 120 au début, au verset 15. Ils étaient 120. Mais qu'est-ce qu'on lit ensuite dans notre chapitre 2? On lit qu'il fut ajouté 3000 personnes. Ils étaient 3120 maintenant dans l'Assemblée. Ça, c'était la puissance de l'Esprit de Dieu à l'œuvre pour faire édifier, grandir, accroître le corps de Christ. Et on lit ensuite au verset 47 qu'à tous les jours, l'Esprit ajoutait ceux qui devaient être sauvés à cette assemblée. Maintenant, je n'ai pas la réponse à cette question, mais est-ce que depuis la formation du corps de Christ, l'Esprit de Dieu a ajouté à chaque jour au moins une âme au corps de Christ? Vous savez quoi? J'aime à penser que oui. J'aime à penser que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une âme à chaque jour au moins qui s'est tournée des ténèbres vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu à l'œuvre pour ajouter au cœur de Christ. Donc, on voit que l'Esprit-Saint était cette puissance qui était annoncée pour venir. Et on voit tous les actes, toute la puissance de l'Esprit dans le chapitre 2 des Actes a été employée pour une chose très spécifique, pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 15. Peut-être on peut aller lire le verset dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, à la fin du chapitre. C'est écrit au verset 26. Mais quand le Consolateur, le Paraclète, le Saint-Esprit sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. L'Esprit rend témoignage de Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. Donc, on voit qu'il y a ce témoignage qui était fait, et c'est tout le travail de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'il habite l'enfant de Dieu aussi, comme on lit dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. C'est un esprit de puissance qui est en nous, non pour que nous nous sentions forts, puissants, capables, etc. Non. Un esprit pour rendre un témoignage puissant à la personne du Seigneur Jésus. On va continuer. Le travail de l'Esprit, il est nécessaire. Il est indispensable. Pourquoi il est indispensable? Pas juste pour que l'enfant de Dieu puisse en rendre un témoignage au Seigneur Jésus. Il est aussi indispensable pour que ce témoignage soit compris. On pourrait lire quelques passages très rapidement dans les Écritures. Le premier dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Premier épître aux Corinthiens 2, chapitre 14. On lit ceci. On lit que l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. L'homme animal, c'est l'homme sans Dieu. Il ne peut pas recevoir ni connaître les choses de Dieu, parce que c'est une folie pour son entendement naturel. Alors l'Esprit de Dieu, il doit intervenir pour changer cette donne-là. On va lire quelques passages pour dresser un portrait de l'état de l'homme sans Dieu et pourquoi c'est indispensable d'avoir l'Esprit de Dieu qui travaille. Un deuxième passage dans Jean 14. Dans Jean au chapitre 14, on lit au verset 16 et 17. Quoique cependant il ne soit pas laissé sans témoignage en faisant du bien. Oh, excusez-moi, je lis dans Actes. Actes 14, ça ne lira pas très bien. 16 et 17, voilà. Et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. L'Esprit ne peut pas être reçu par ceux qui sont dans le monde, parce qu'ils ne le voient pas et ne le connaissent pas. Donc, s'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, et que ce monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, ça va vraiment pas bien. Mais il y a pire que ça. On est dans les ténèbres aussi. C'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens au chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 4, excusez-moi. 2 Corinthiens, chapitre 4, on lit ceci au verset 3. Si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. On est aveuglé lorsqu'on est sans Dieu. Puis finalement, on est mort dans nos péchés. C'est ce qu'on trouve aussi dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Mort dans nos péchés. Alors, si l'homme sans Dieu, il est mort dans ses péchés, il est aveuglé, qu'il ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'il ne le connaît pas et ne le voit pas, et que sans l'Esprit de Dieu, il ne peut ni recevoir ni comprendre les choses de Dieu parce que c'est une folie pour lui, on réalise qu'il faut absolument l'intervention de cet Esprit même en puissance pour que l'Évangile soit compris. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 1, peut-être un dernier verset qu'on peut lire pour conclure cet état terrible de l'homme sans Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, au chapitre 1, versets 23 et 24, on lit ceci. « Mais nous prêchons Christ crucifié aux Juifs, occasion de chute, aux nations folies, mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Aux uns, pierre d'achoppement, aux autres, une folie. Il faut que l'Esprit Saint intervienne pour changer la donne. Donc, l'Esprit, il vient pour illuminer et éclairer, et ce travail est nécessaire dans le cœur de ceux qui sont sans Dieu pour qu'ils puissent saisir et comprendre le message de l'Évangile. Donc, il est nécessaire cet Esprit dans sa puissance pour que nous rendions témoignage, et il est nécessaire pour que celui qui entend ce témoignage le comprenne. On pourrait aussi souligner un autre point, que l'Esprit Saint, il est venu pour convaincre. Pour convaincre, comme on dit dans Jean 16, versets 8 à 11, de péché, de justice et de jugement. On va lire des passages. Jean 16, verset 8. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. L'Esprit Saint ne remplace pas le témoignage que la loi faisait déjà. L'Esprit Saint ne vient pas faire un double travail pour quelque chose qui est déjà très bien fait. Alors, lorsque nous lisons qu'il est venu pour rendre témoignage de péché, de justice et de jugement, ça ne veut pas dire qu'il est venu rendre témoignage du péché des gens, que la justice de Dieu les attend et que le jugement va tomber sur eux. La loi fait déjà toutes ces choses-là. Lorsqu'on présente la loi à un pécheur, cela éveille sa conscience. Nous, on ne peut pas éveiller la conscience de quelqu'un. Mais la loi est là exactement pour cela. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans 1 Timothée, chapitre 1, au verset 8 et suivant, que la loi, elle est bonne, mais pas pour le juste. Elle est bonne justement pour éveiller la conscience de ceux qui commettent le péché. Par exemple, si on demande à quelqu'un, c'est écrit « Tu ne dois pas rendre un faux témoignage. Est-ce que tu as déjà menti? » Oh, on va entendre vite des excuses parfois parce que la conscience travaille. Oh, mais c'est normal, on est des êtres humains, on fait ça. Non, non. La loi est utilisée pour justement faire éveiller la conscience d'une personne à ses péchés. Donc, c'est bien d'utiliser cet outil parfois pour éveiller la conscience qui est endurcie, surtout de nos jours où on ne fait plus aucunement la distinction entre ce qui est bien puis ce qui est mal, et puis on veut relativiser toute chose. La loi demeure et elle est cet outil que l'Esprit de Dieu peut utiliser justement pour éveiller la conscience de quelqu'un sur ses péchés. Mais lorsque c'est écrit que l'Esprit vient témoigner au sujet du péché, c'est pas concernant les péchés. La loi fait déjà cela. La loi dit déjà aussi que le mal va être jugé, qu'il y a justice. La loi dit déjà aussi que le méchant sera détruit. Le jugement, la loi fait déjà tout cela. L'Esprit-Saint n'est pas venu refaire ce travail-là. Alors, lorsqu'il parle du péché, qu'est-ce que ça veut dire au juste que l'Esprit est venu rendre témoignage concernant le péché? Eh bien, c'est le péché de ne pas croire en la personne du Seigneur Jésus. C'est exactement ce que le Seigneur dit dans Jean 16. « Parce qu'il ne croit pas en moi. » C'est ce péché-là que l'Esprit désire convaincre une personne que c'est la pire et la plus grave des choses qu'elle peut faire de ne pas croire au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son propre Fils, Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean 3, 36. Il a dit que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. L'Esprit-Saint vient ici pour convaincre qu'il faut croire, parce que sinon, le pire des péchés, c'est rejeter le témoignage de Dieu et la personne du Christ. La justice, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu convaincre de justice? Eh bien, de la justice de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a vécu une vie parfaite, et puis celui qui croit en lui et en ce qu'il a fait, il est revêtu de la justice de Christ devant Dieu. Et ça, c'est le travail de l'Esprit, pour convaincre encore une fois, pour croire ce que Christ est venu faire. Et le jugement, c'est la même chose. Ce n'est pas le jugement qui doit tomber sur les gens, c'est le jugement qui est tombé sur la personne du Seigneur Jésus. C'est pour cela aussi que le Seigneur il dit que l'ennemi, il est déjà jugé au verset 10. De justice parce que je m'en vais à mon Père, je vais y revenir, et aussi de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Lorsque Christ est mort à la croix, il y a un verset qui dit qu'il a triomphé des autorités, les montrant en public. Il a triomphé d'elle. Eh bien, le Seigneur Jésus a vaincu, il a triomphé du monde, de la mort, et puis de Satan, lorsqu'il est mort à la croix. Il a subi à notre place le jugement que nous méritions. Il a fait cette expiation, et c'est ce que l'Esprit de Dieu travaille avec puissance pour convaincre, pour que les gens se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Et cette justice, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur dit « parce que je m'en vais auprès de mon Père », eh bien, on lit cet autre verset, je crois que c'est dans Romains chapitre 4, qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité pour notre justification. Le Seigneur Jésus, s'il est là-haut dans les cieux aujourd'hui, c'est parce qu'on est justifié en lui. Donc ainsi, le travail de l'Esprit, c'est un travail positif. C'est un travail où il cherche à convaincre les âmes, les gens, que Christ est mort pour leurs péchés en subissant le jugement qu'ils méritaient, à cause de leur péché, justement, que leur conscience est rendue sensible à cause de la loi, entre autres, et que celui qui croit, eh bien, il est revêtu de la justice de Christ devant Dieu. Mais celui qui ne croit pas, c'est le pire des péchés. Alors, l'Esprit-Saint rend ce témoignage, et ce sont les points essentiels de l'Évangile qui nous sont présentés dans ces choses-là. Il fait cela pour que les gens croient dans le Seigneur Jésus, qu'il croit au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils bien-aimé. C'est le témoignage de l'Esprit. Maintenant, c'est essentiel pour nous de comprendre ces choses-là. Pour quelles raisons? Eh bien, ça nous rappelle que l'homme, naturellement, il est totalement perdu. Nul ne cherche Dieu. Et malgré même la lumière qui a brillé dans les ténèbres, on voit que les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et malgré même la lumière que l'Esprit peut amener dans l'âme et la conscience de quelqu'un, on lit même malheureusement qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'homme est irrémédiablement perdu, il n'y a rien à faire. Donc, il nous faut ce travail de l'Esprit-Saint, tant dans celui qui communique cette vérité que dans celui qui l'entend pour pouvoir saisir le message de Dieu. C'est aussi essentiel de comprendre cela parce que ça nous aide à comprendre le travail que Dieu fait dans une âme. Regardez, on ne sait pas qui est sauvé. Paul ne savait pas qui était sauvé. Mais dans Timothée, il dit ceci de très important, c'est qu'il supportait toutes choses pour les élus de Dieu. Il supportait tout, il prêchait à tous les hommes pour que ceux qui étaient appelés viennent à salut. L'autre chose qu'on apprend, c'est que c'est l'Esprit Saint qui fait comprendre ces choses-là. Si on ne voit pas de résultat, il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être qu'on présente mal le message. Ça, ça se corrige. Mais ce n'est pas notre travail de sauver quelqu'un. On en est incapable. On en est impuissant. C'est l'œuvre de Dieu dans une âme. Donc, c'est important de changer notre façon de penser lorsqu'on rend témoignage du Seigneur autour de nous. Que si on ne voit pas nécessairement un résultat, que ça ne sert à rien, les gens sont fermés, autant se taire, puis rester chez soi bien tranquille. C'est faux. Notre appel, c'est de rendre témoignage au Seigneur. C'est d'être ses témoins. Et puis, lorsque l'Esprit-Saint sauve quelqu'un, eh bien là, on en fait des disciples. Comme on trouve dans Matthieu chapitre 28. Notre seul travail, c'est de rendre ce témoignage. Se rendre ce témoignage parce que l'Esprit-Saint utilise encore toute sa puissance aujourd'hui pour une chose. Rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Quelle est ma responsabilité dans tout cela? Est-ce que je suis engagé dans l'œuvre pour le service du Seigneur? Ou est-ce que je suis, comme on a médité la semaine passée, arrêté dans le service de Dieu parce que j'ai été influencé négativement, découragé, déprimé. Mes mains ont été rendues lâches à cause du travail de l'ennemi. Il y a un encouragement pour nous. L'Esprit de Dieu qui est ici pour travailler avec puissance, il n'a pas changé et il est toujours le même pour faire cette œuvre. Je pourrais me poser la question par contre, est-ce que je vois le travail que Dieu fait? Est-ce que j'y participe? Ou est-ce que est-ce qu'on dit « Ah, mais on est dans un temps de petites choses. Écoute, frère, c'est bien beau tout ça, là, j'entends, là, il faut rendre témoignage, mais on est dans un temps de petites choses aujourd'hui, hein. Des petites réunions, la parole, il n'y a pas beaucoup de puissance, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent au Seigneur, puis... » Est-ce que c'est vrai qu'on est dans un temps de petites choses? Quant à la responsabilité de l'homme, oui. C'est la ruine totale, à vrai dire. C'est même pas un temps de petites choses, c'est la ruine totale. La division partout, puis... On n'entrera pas dans ce sujet-là. Quant à ce que nos yeux voient, est-ce que c'est un temps de petites choses? Oui, c'est un temps de petites choses. Mais est-ce que Dieu, lui, est dans un temps de petites choses? Dieu aujourd'hui, oh non, Dieu, il est tanné, là. Il a plus de force, il est fatigué. Lui aussi, il a hâte que le moment arrive, là, que le dernier va arriver, puis que le Seigneur va venir nous chercher. Non! Dieu est encore en train d'agir aujourd'hui avec la même puissance. Ce n'est pas un temps de petites choses pour Dieu. Alors, nous, c'est important de changer notre façon de penser, d'ôter nos excuses, puis de dire « Ah, oh, mais c'est un temps de petites choses » pour avoir les yeux ouverts sur ce que Dieu fait. Mais le voyons-nous, qu'est-ce que Dieu fait? On doit dire que peut-être, comme le Seigneur Jésus a dit à l'église de Laodicée, « T'as besoin d'un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Allons, Seigneur, pour lui demander d'ouvrir nos yeux pour voir le travail que son esprit fait encore avec puissance. Ce travail-là, ce ne sera pas un travail extraordinaire, éclatant, qui va être impressionnant aux yeux des hommes, parce que Dieu ne va pas donner sa gloire à personne. On serait trop prompt à se frotter puis à se dire « Ah oui, on l'a l'affaire, nous autres, on est bons. » Le Seigneur ne va pas faire ça. On vit dans un temps de ruine, mais il agit encore avec la même puissance, frères et sœurs, aujourd'hui, pour sauver des âmes. Mais est-ce qu'on est actif dans ce travail-là? C'est la question que je me pose à moi personnellement et que je vous pose, que nous nous posons ensemble. Le faisons-nous, ce travail? On ne verra jamais le travail de Dieu se faire si on n'est pas actif dans ce travail. Est-ce qu'on va se glorifier de ce travail-là? Non, c'est pour le Seigneur. Et il va faire en sorte que le travail va se faire, encore avec puissance, mais pas pour impressionner les sens et les hommes. Maintenant, des excuses, on en trouve. Avez-vous déjà entendu ceci? Moi, j'ai déjà entendu ceci, ça m'avait surpris. L'épouse n'évangélise pas. L'épouse de Christ n'évangélise pas? Mais c'est vrai, mon frère, l'épouse de Christ n'évangélise pas. L'épouse partage toutes choses avec Christ, à vrai dire. Elle règne avec lui, elle est dans la gloire avec lui. Ils sont deux ensemble, une seule chair, comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 5. C'est merveilleux! Mais comme Paul a dit aux Corinthiens, « Vous régnez déjà? Vous vous glorifiez déjà? Ben, j'aimerais ça que ça soit la réalité, mais c'est pas le cas, c'est pas le temps. C'est vrai que l'épouse n'évangélise pas, mais le corps de Christ, lui, il évangélise. Le Seigneur Jésus est plus présent avec nous physiquement aujourd'hui, mais par son corps, il continue à faire les mêmes œuvres qu'il faisait. Il fait du bien à tous les hommes, spécialement ceux de la maison de Dieu, et il annonce l'évangile, non plus du royaume, mais il annonce l'évangile de la grâce qu'il y a maintenant, par son œuvre accomplie à la croix. Il faut faire attention aux expressions qu'on choisit. Peut-être que oui, l'épouse, elle n'évangélise pas, mais le corps de Christ, lui, fait le travail. Et l'Esprit-Saint, il est ici-bas pour agir spécifiquement avec puissance pour que ce travail de rendre témoignage au Seigneur Jésus se fasse encore. Donc, est-ce que j'ai des craintes peut-être qui viennent, comme on a discuté la dernière fois? Eh bien, soyons encouragés. Encore une fois, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, c'est pas un esprit de crainte qu'on a, mais un esprit de puissance. Allons, Seigneur Jésus, et faisons-lui confiance. L'Esprit-Saint voudrait nous montrer encore ses œuvres puissantes à nos propres yeux. Pas juste entendre des nouvelles de loin qui disent que, ah, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont sauvées, puis que nous, on le voit pas. Il désire nous le montrer, nous le faire voir. Sa puissance n'a pas changé. Elle est toujours la même encore aujourd'hui pour sauver. Jusqu'à la dernière minute, il va y avoir des âmes qui vont être amenées dans ce corps de Christ. Eh bien, on pourrait simplement se souvenir qu'il est encore à l'œuvre, puis qu'il faut avoir des yeux pour le voir, que ce n'est pas encore une fois pour que nous, on se glorifie. Ce ne sera pas spectaculaire, mais il fait le travail. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous avons des yeux pour voir? Est-ce que c'est un temps de petites choses encore une fois? Allons, Seigneur, pour qu'il nous ouvre les yeux, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage encore aujourd'hui au Seigneur Jésus. J'aimerais très rapidement aller aussi sur un deuxième aspect, mais pas dans le détail, que l'Esprit-Saint, on l'a dit tantôt, il équipe le corps de Christ, les membres du corps de Christ, pour l'édification du corps de Christ. On pourrait lire des passages, mais on ne va pas le faire parce que le temps est trop avancé, mais dans 1 Corinthiens 12, versets 1, 2 et suivant, on voit beaucoup de ces dons qui sont là, puis les raisons pour lesquelles on est un seul corps, unis tous ensemble, et chacun des membres en particulier de ce corps de Christ. L'Esprit a équipé chacun de ses membres pour une tâche particulière. Et le but, c'est l'édification du corps de Christ. Soit pour l'accroissement, soit pour qu'il grandisse à la pleine stature du Seigneur Jésus. J'aimerais donner une image de pourquoi c'est important, tous les dons. Chacun de ceux-ci sont nécessaires, indispensables. Je vais raconter une petite histoire fictive en espérant que ça nous reste à l'esprit, cette petite image. S'il y a quelques ressemblances avec des faits vécus, j'en ai aucune idée, mais ça ne m'étonnerait même pas que ça soit arrivé. Imaginons par exemple un évangéliste. Il est allé annoncer l'évangile toute la journée, il a prêché. Ça n'a pas bien été cette journée-là. Il s'est fait rire de lui, il s'est fait tirer des affaires, des tomates pourries, il s'est fait insulter par des gens qu'il connaissait en plus. Ça a mal été. Il est rentré chez lui, il n'y a rien qui a fonctionné, découragé. Il a parlé à sa femme et ses enfants. Il était vraiment découragé. Mais on cogne à la porte, on ouvre la porte, et puis là, il y a ce frère du rassemblement qui est venu, et puis qui lui donne une parole d'encouragement. Il avait à cœur de passer pour dire un mot, et puis il s'en va, sachant rien du tout de ce qui s'est passé. Et ça l'a fait du bien à notre évangéliste. Et puis, un peu plus tard, dans la fin de la journée, il y a cette sœur qui vient et qui apporte son sourire, et puis quelques biscuits à ce frère. Sœur bonbon, vous savez, là, cette sœur-là qui a toujours des gâteries pour les enfants, eh bien, elle vient visiter ce frère. Le Seigneur lui avait mis à cœur de faire ça. Elle retourne. Ça fait du bien au frère, ça. Quelle belle attention. Le soir, on va à la réunion de prière. Et il y a ce frère qui se lève dans la salle et qui prie avec ferveur et qui prie avec foi Dieu pour le salut des âmes et puis qui nous rende capables de faire ce travail. Et puis, il donne même une parole de prière pour ce frère en particulier qui sait qu'il fait l'œuvre, ne sachant rien de ce qui s'est passé dans la journée. Et ça, ça l'a fait du bien pour encourager ce frère. Et puis, il y a un autre frère qui s'est levé pour partager la parole. Et puis, il y a eu ce verset-là qui a été lu, qui a touché directement le cœur de notre évangéliste découragé, afin de le fortifier. Le soir, il rentre chez lui, heureux dans le Seigneur Jésus, rendant gloire à Dieu. Il se couche, et le lendemain matin, il retourne au coin de la rue, prêcher le nom du Seigneur à salut pour les âmes. C'est une histoire fictive que j'invente, que je présente, simplement pour montrer la nécessité de tous les dons dans le corps de Christ. C'est pas juste ce qui nous semble grand à nos yeux qui est important. Mais ce frère qui est venu avec une parole de sagesse conduite par l'Esprit-Saint, c'était du Seigneur pour un moment de besoin. Cette sœur qui est venue pour apporter son sourire et quelques petites gâteries, c'était du Seigneur aussi, conduit par son Esprit-Saint. Le frère qui priait avec foi et ferveur le soir dans la réunion de l'Assemblée, c'était aussi du Seigneur, conduit par l'Esprit-Saint. Et puis finalement, le mot qui a été donné, c'était le ministère que le Seigneur a donné pour encourager ce frère. On pourrait rajouter à l'histoire aussi, cette vieille sœur-là, cette sœur bonbon-là, eh bien, le lendemain, il y a un jeune homme qui est venu l'aider pour quelques nécessités matérielles qu'elle avait. Elle était tellement heureuse, la sœur, qu'elle a partagé sa joie en amenant des biscuits à tous les frères et sœurs du rassemblement la réunion suivante. Est-ce qu'on comprend l'idée du fonctionnement nécessaire de tous les membres du corps de Christ? Des fois, on a tendance à classifier des dons plus importants que d'autres, alors que chacun est absolument nécessaire et indispensable. Frères et sœurs, soyons pas assis sur notre don et sur ce que l'Esprit de Dieu voudrait faire avec nous, mais soyons disponibles pour qu'il nous utilise à la gloire de son nom. Donc, il y a une différence aussi entre les dons de l'Esprit et puis les dons naturels. Je voudrais juste donner un exemple très rapide, parce que l'horloge avance toujours trop rapidement. Tabitha, Dorcas, est-ce que c'était son don de faire des vêtements puis des bonnes œuvres? Non. Je veux dire, peut-être qu'elle avait une voisine qui adorait des idoles qui étaient deux fois meilleures qu'elle à faire de la couture. On le sait pas. Coudre, c'est pas un don. Faire de la mécanique, c'est pas un don. Faire de l'informatique, c'est pas un don. Tout ce qu'on a appris à l'école, ça, c'est pas des dons de l'Esprit-Saint. C'est des capacités naturelles qu'on a apprises ou qu'on a eues, comme par exemple peut-être faire le dessin, de la musique, etc. Capacités naturelles. Le don de l'Esprit, c'est quand l'Esprit travaille dans le cœur de quelqu'un dans le but de faire un bien pour le corps de Christ ou pour tous les hommes. Eh bien, ça, c'est un don de l'Esprit. Dorcas, Tabitha, elle a vu les besoins, ça l'a touché, puis elle a eu à cœur de faire quelque chose pour ça. Et elle a utilisé les moyens qu'elle avait entre ses mains pour aider. Pareil pour le frère Épaphras, je crois dans Colossiens chapitre 4. On lit qu'il priait pour tous les saints. Est-ce que prier, c'est un don? Non! Tout le monde peut prier. Tout le monde en a ses libres accès à Dieu. Même un incrédule peut prier. Aucune garantie de réponse de la part de Dieu. Mais Dieu, il peut prier aussi. Puis encore mieux s'il prie pour avoir, se repentir et puis recevoir le Seigneur dans sa vie. Encore mieux. Amen. Il va avoir une réponse immédiate à ça. Garantie à 100%. Mais tous peuvent prier. C'est pas un don. Mais Épaphras avait ce fardeau pour les saints sur son cœur. Il désirait qu'ils croissent dans le Seigneur Jésus puis combattait dans la prière pour chacun de ceux-ci. C'était la façon que l'Esprit de Dieu l'a utilisé pour faire ces choses-là. Ainsi, ce n'est pas parce qu'on a une capacité naturelle que l'Esprit va l'utiliser pour le service. Mais ce n'est pas parce qu'on a une capacité naturelle que l'Esprit ne va pas l'utiliser. Mais il faut faire la différence entre le don de l'Esprit et ce que l'Esprit fait à travers chacun des membres du corps et les capacités naturelles que nous avons. Tout cela, l'Esprit de Dieu le donne pour l'édification du corps de Christ. Donc, on pourrait se poser la question rapidement, est-ce que j'utilise mon don? Comment je l'utilise? C'est pas nécessaire d'avoir une étiquette, de savoir c'est quoi, mais est-ce que je suis disponible entre les mains de l'Esprit de Dieu pour le travail qu'il fait? C'est ça qui est le plus important. Vous savez, la plupart des problèmes qu'on a des fois dans nos, parmi les enfants de Dieu, c'est triste à dire, mais c'est souvent parce qu'on n'est pas à l'œuvre comme on devrait le faire. On n'est pas en train de rendre témoignage au nom du Seigneur Jésus comme on devrait le faire. On devrait être tellement épuisé de rendre témoignage du Seigneur Jésus qu'on n'aurait plus aucune force puis aucun temps pour s'occuper des petites disputes de mots, puis des convoitises, puis toutes sortes de ces affaires-là qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est triste, c'est la réalité des croyants, mais soyons exercés par cela pour être occupés dans les choses du Seigneur. Alors, c'est quoi mon attitude face à ces dons que j'ai reçus? Et puis, si je fais rien, c'est un handicap pour le corps de Christ. C'est un handicap. Et c'est jamais bon un handicap dans un corps. Puis, on pourrait même aller dans pire que ça. Si je ne suis vraiment pas en communion avec le Seigneur, puis que je fais même une œuvre contraire au Seigneur, je ne suis pas un handicap, je suis un cancer dans le corps de Christ. Que le Seigneur nous donne d'aller à lui, nous repentir s'il le faut, et puis avoir des cœurs renouvelés pour le servir. L'Esprit de Dieu travaille encore avec puissance pour cette œuvre de rendre témoignage au Seigneur Jésus pour l'édification du corps de Christ, dans l'accroissement et dans les biens qui sont donnés au corps. Donc, Dieu fait une grande œuvre encore aujourd'hui. Que dans sa grâce, on ait nos yeux ouverts à cela, nos cœurs touchés par cette grande œuvre puissante que Dieu fait, et qu'il nous donne, dans sa grâce, d'avoir le désir de renouveler nos cœurs, de mettre nos mains à son service, et puis de dépendre de la puissance de l'Esprit-Saint pour faire ce travail. Il y a un très beau cantique, le numéro 140, qui a cette strophe qui dit « Remplis-nous de ferveur pour mettre à ton service nos jours, nos biens, nos corps, nos cœurs. » Que le Seigneur, frères et sœurs, nous donne de se mettre ainsi à son service. Il fait encore une grande œuvre aujourd'hui pour sauver les âmes. Et l'Esprit de Dieu agit encore avec puissance aujourd'hui pour équiper le corps, pour que le témoignage soit rendu au nom du Seigneur Jésus. Et c'est la chose la plus précieuse. Si on ne voit pas de résultats des fois, et prions pour qu'il y ait des résultats, prions pour qu'on voit des âmes sauvées. Mais si on n'en voit pas, soyons réjouis d'une chose, c'est que le nom du Seigneur Jésus est encore annoncé aujourd'hui à la gloire de Dieu. Et lorsqu'on fait ça, on annonce les vertus de celui qui est encore rejeté ici-bas et qui vient très bientôt. Que le Seigneur nous encourage en toute simplicité de voir qu'il travaille encore avec puissance à cette œuvre autour de nous, qu'il nous donne d'avoir des yeux ouverts pour voir qu'est-ce qu'il fait et un désir dans nos corps pour pouvoir faire une partie intégrante, active de ce travail qu'il fait dans la dépendance de l'Esprit-Saint. Oui, que tout ce que nous ayons soit à son service. Remettons ces choses au Seigneur et puis qu'il nous bénisse et qu'il nous rafraîchisse dans sa grande bonté. Et que ce ne soit pas juste des paroles, mais qu'on puisse chercher sa face pour que lorsqu'on aura plus de liberté de nouveau, on puisse aller de l'avant, en simplicité, dans la dépendance de l'Esprit, mais activement, avec la puissance que l'Esprit de Dieu nous donne pour aller au-delà de nos peurs, pour faire ce service. Vous savez, dans 1 Corinthiens 2, Paul avait des peurs aussi. Mais la différence entre Paul et nous, c'est que Paul, lui, il est allé avec la puissance de l'Esprit de l'avant, au-delà de ses peurs, pour rendre témoignage au Seigneur Jésus. En terminant, simplement dire que le prochain message d'édification aura lieu samedi, le 18 avril, et ce sera notre frère Marc Ruel qui va apporter ce message. Et le titre de son message sera « Pour que ma vie ne soit pas un échec ». Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait profiter de ces réunions, partagez le lien édification.bible et puis soyons là pour entendre ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère. Priorisons les réunions locales, et puis si on manque la réunion, l'enseignement en ligne, il y aura une rediffusion dans la grâce de Dieu. Aussi, n'oubliez pas, on a parlé de toute cette activité du corps de Christ local, bien limitée à bien des aspects présentement dans la situation où nous devons rester dans nos maisons, mais soyons encouragés à maintenir les liens, la communion fraternelle. Ça bouscule nos habitudes, mais que le Seigneur nous donne de grandir à travers tout cela, et surtout, encore une fois, de regarder à lui dans ces moments. Dans combien de temps le Seigneur vient? On ne sait pas, mais on l'attend. Puis que dans sa grâce, on puisse faire l'œuvre puissante qu'il fait encore aujourd'hui. De notre côté, elle est très faible, mais qu'on puisse être aussi une part intégrante de ce travail qu'il fait encore aujourd'hui. Donc que le Seigneur, dans sa grâce, nous encourage par sa parole, qu'il vous encourage, frères et sœurs, qu'il m'encourage aussi. Regardons tous à lui et demandons-lui qu'il nous bénisse, qu'il nous encourage et qu'il bénisse son peuple aussi pour que les œuvres de Christ soient encore faites ici-bas et qu'un témoignage lui soit rendu. Si le Seigneur le permet, dans l'attente de sa venue, je vous dis à bientôt.